Vous écoutez Envers et Contre tous. Swing et Prohibition.
Jason Durand, Amaury Perrard.
Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Envers et Contre tous intitulé Swing et Prohibition, première partie. Je suis avec mon collègue Amaury.
Salut.
Pour commencer cet épisode, nous sommes dans les années 30, dans les rues de Harlem, un quartier noir de New York. Alors Harlem vivait la nuit, dans les salons, les caves, les cabarets, les bars obscurs, ça dansait, ça chantait. C'était l'époque de la prohibition, des gangsters et du whisky de contrebande. Alors le transport, l'importation, l'exportation et la vente de boissons alcoolisées étaient prohibées. On voyait apparaître ce qu'on appelle les speakeasy, des bars-clubs clandestins où l'alcool se servait sous les tables. Et ça va devenir un espace de travail pour les musiciens de l'époque. Alors c'est aussi l'époque des grandes formations appelées les big bands. Et Amaury, peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, au milieu des années 30, c'est le swing qui est le courant musical principal. On l'appellera également jazz classique ou encore middle jazz. Sa particularité est notamment de reprendre énormément de blues anciens. En fait, au milieu des années 20 commence une véritable révolution pour le jazz puisque la batterie apparaît et remplace les washboards. La contrebasse également remplace le tuba. Le jazz devient populaire et de plus en plus de musiciens commencent à gagner leur vie en jouant. Il y a deux premiers leaders de big band qui sont Jelly Roll Morton et Fletcher Anderson. Donc on va s'intéresser un peu à l'orchestre d'Anderson. En fait, sa musique, à la base, est très proche de celle de la variété et il fait attendre 1924, qui marque l'arrivée de Louis Armstrong, pour que l'orchestre prenne vraiment cette dimension de jazz et cette sonorité de jazz. La batterie, elle, est assurée par Kaiser Marshall et lui introduira carrément dans le jazz la cymbale, qu'on appelle également le charleston. La composition des big bands va continuer à évoluer et s'agrandir avec le temps, et en 1930, un orchestre moyen était souvent composé de 3 trompettes, 3 trombones, 3 saxophones, plus la section rythmique, ce qui compose un groupe d'environ 14 personnes.
Alors Duke Ellington est l'un des premiers grands compositeurs de jazz. Dès 1926 et tout au long de sa carrière, Ellington va se démarquer des autres par une manière toute personnelle d'orchestrer et d'arranger. Il va créer deux répertoires, l'un qui est populaire et du coup beaucoup plus facile d'accès, et l'autre composé de grandes suites plus travaillées.
On fait tout de suite une première pause musicale avec le morceau Take the A-Train, composé et interprété par l'orchestre de Duke Ellington.
The A-Train de Duke Ellington. Alors c'est un morceau qui fait partie de son répertoire populaire. Le A-Train, en fait, c'est le métro qui reliait le centre de New York à Harlem. Harlem, je vous le rappelle, c'est un quartier noir de New York, très empreint de musique et qui va devenir une véritable icône de la musique jazz et de l'art afro-américain en général. On sent l'influence de la vie des musiciens et de la communauté afro-américaine dans la composition des thèmes musicaux. On va avoir beaucoup de solistes qui vont briller dans les big bands et on va distinguer deux types d'improvisation. Alors un premier qui vient du jazz New Orleans, qui est en fait une variation portant sur la mélodie, autrement dit c'est une paraphrase. Et la deuxième, c'est l'invention en fait d'une mélodie tout à fait nouvelle, qui est fondée sur le déroulement des accords, qui va totalement se dégager du thème principal et ne conserver que la trame harmonique. Le musicien va entamer un véritable dialogue avec son instrument et il va nous raconter une histoire qui sera souvent imprégnée de son quotidien. L'apparition des big bands va obliger les musiciens à apprendre la musique et à s'intellectualiser. Les musiciens vont développer la maîtrise de leur instrument et on va voir apparaître de nouvelles sonorités et de nouvelles techniques de jeu.
Oui, par exemple, le trompettiste Bubber Miley est l'un des pionniers du son wah-wah, donc qui consiste à modifier le son de sa trompette en bouchant et débouchant l'extrémité avec une sourdine ou un chapeau, par exemple. À noter aussi le growl, qui consiste à émettre des bruits simultanément au jeu instrumental, donc c'est un procédé à la fois vocal et instrumental, et les notes growlées se démarquent des autres par un son très gras et rocailleux.
À l'époque, il y a quelques autres grands orchestres, comme celui de Count Basie, qui sera vraiment l'alter ego de Duke Ellington. Son big band est une véritable usine à swing. Nous avons aussi l'orchestre de Glenn Miller, Artie Shaw, Buddy Rich, Gene Krupa ou encore Benny Goodman. Alors Benny Goodman fut l'un des premiers à composer un orchestre multiracial. Et malheureusement, cette formation l'a empêché de jouer dans certains États du Sud où le racisme était encore très violent. On fait tout de suite une pause musicale avec le morceau Sing, 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 interprété par l'orchestre de Benny Goodman.
Sing Sing Sing, interprété par l'orchestre de Benny Goodman. Alors, pour recontextualiser un peu, en 1929 et le jeudi 24 octobre précisément, commence une crise économique sans précédent à Wall Street. La bourse et l'économie américaine s'effondrent littéralement, plongeant les classes populaires dans une misère totale. Le chômage explose et la consommation des ménages chute. L'industrie musicale est évidemment touchée car les gens n'achetaient plus d'enregistrements, ils n'avaient pas d'argent, et nombre de musiciens durent arrêter leur activité pour survivre autrement. Les musiciens noirs furent évidemment les premiers touchés, et c'est pourquoi nombre de chefs d'orchestre, comme Benny Goodman, étaient blancs, exception faite donc de Count Basie et Duke Ellington. Certains de ces chefs d'orchestre employaient bien des musiciens noirs, mais il était extrêmement difficile pour eux de se faire accepter dans les États du Sud, qui étaient encore très racistes, et cela resta donc un phénomène relativement marginal. Ce contexte de crise économique fut paradoxalement assez profitable au swing, car les gens continuaient de fréquenter les clubs pour oublier leur quotidien. Roosevelt tentera bien de résoudre celle-ci à partir de son élection en 1932, mais ses effets se feront ressentir jusqu'en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale. Car Roosevelt voulait transformer les États-Unis en arsenal de la démocratie face à l'avancée des armées nazies en Europe. De plus, l'industrie de guerre faisait redémarrer la machine économique. Mais les ouvriers de couleur ne parvenaient cependant pas à trouver un emploi, et c'est pourquoi le 25 juin 1941, le président Roosevelt décréta la déségrégation de l'industrie de guerre. Entre 1940 et 1945, ce sont 3 millions de soldats de couleur à être appelés sous les drapeaux. L'armée demeura presque totalement ségrégée jusqu'à la fin du conflit, mais les Noirs contribuèrent considérablement à l'effort de guerre. La tension régnait dans les camps d'entraînement et minait le moral des troupes de couleur. Même les séances de cinéma et de théâtre destinées à entretenir leurs optimistes demeurèrent ségrégées jusqu'en 1944. L'accueil des Européens, notamment des Français envers ces soldats noirs, n'est pas du tout le même, et cela permit au swing de se répandre en Europe.
Oui, comme on l'a vu lors de l'épisode précédent, le jazz va être très bien accueilli en Europe pendant la Première Guerre mondiale, et plus particulièrement en France. Ça sera pareil pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il va se développer un jazz particulier, puisque c'est un jazz français, à l'initiative du virtuose et génie de la guitare Django Reinhardt. Django, aux origines manouches, issu d'une classe sociale populaire, crée un jazz mêlant swing et musique tzigane. Son quintet, le Hot Club de France, avec la complicité du virtuose violoniste Stéphane Grappelli, connaîtra un grand succès. Django a une particularité puisqu'il n'a que deux doigts à sa main gauche et son handicap va façonner son jeu qui sera à la fois très technique et mélodique. Écoutons tout de suite Minor Swing, interprété par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli.
Minor Swing de Django Reinhardt. Ici encore, le solo et l'improvisation ont une place primordiale. Et d'ailleurs, en offrant cette place centrale au soliste, le swing a favorisé une énorme floraison de styles individuels. De toutes les écoles du jazz, c'est sans doute celle qui l'emporte par la quantité et la diversité des talents. C'est également l'occasion pour de nouveaux instruments solistes d'apparaître dans le jazz, comme le saxophone. Coleman Hawkins et Lester Young sont sûrement les deux grands saxophonistes ayant façonné le jeu sax de cette époque. Hawkins ayant un jeu très puissant, très dynamique avec de nombreux vibratos, tandis que Young, à l'opposé, aura un jeu tout en finesse, presque aérien. On écoute tout de suite un extrait de Hawkins, Groovin'. We'll be right back.
Groovin' de Coleman Hawkins et sa swing sévère dans Envers et Contre Tous. Malheureusement, cet épisode est terminé. Nous aurons vu l'arrivée des grands orchestres, les big bands, au sein de la période swing. Nous étions dans les rues de Harlem et surtout nous ne bougeons pas, nous restons ici 2 semaines jusqu'à notre prochain épisode. Toujours dans la période swing, nous verrons plus en détail le vocal jazz avec les grands chanteurs et les grandes chanteuses de l'époque. On verra aussi leur investissement dans la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains. Vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur www.radiodeclic.org. Retrouvez aussi la podcast en version longue sur Facebook et SoundCloud. Et pour finir, si vous souhaitez nous faire part de vos réactions ou bien nous suggérer des morceaux, envoyez-nous un email à enversetcontretousradio@gmail.com. On finit cette émission en musique avec un live de Count Basie à Newport et le morceau Evening.
I'm gonna do a tune which they recorded 21 years ago together called Evening.
À dans 2 semaines sur 106.3 et surtout, écoutez du bon son.
Evening. Every night you come and you find me. Must you always remind me that my gal is gone? Hurry, evening. Can't you see I'm deep in your power? Every minute seems like an hour since my gal is gone. Shadows fall on the wall. That's the time we meet your kisses most of all. Even though it's time, how can I go on? Take me evening. Let me sleep the great dawn and break it. I don't care if I don't awaken since my gal is gone. Evening. Every night you come and you find me. Must you always remind me that my gal is gone? Hurry, evening. Can't you see I'm deep in your power?
Thank you.